D'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comment casser une courbe devenue quasi verticale ces derniers jours? Face à la nouvelle flambée des cas de Covid, l'exécutif dévoile ses nouvelles mesures ce midi. Rappel vaccinal pour tous, durcissement du pass au programme. Le détail dès le début de ce journal. C'est une procédure rarissime en France. Omar Radad obtiendra-t-il une révision de son procès 30 ans après le meurtre de Ghislaine Maréchal? La justice examine aujourd'hui la requête de l'ancien jardinier après la découverte de nouvelles traces ADN. Au sommaire aussi, 27 morts dans la Manche hier. La France et le Royaume-Uni parviendront-ils à agir de concert face à la crise des migrants? Une nouvelle alerte sur l'exposition aux pesticides autour des cultures. Et au Québec, la famille de Céline Dion, très agacée par le film de Valérie Lemercier.
Au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui le futur ex-PDG d'Orange, j'ai nommé Stéphane Richard.
France Inter.
Face à la cinquième vague, Alexis, il faut sauver les fêtes de fin d'année.
Et c'est le mantra du gouvernement, comme l'impression de revenir un an en arrière. Mais cette fois, l'exécutif ne veut pour l'instant ni couvre-feu, ni confinement, ni restriction de déplacement. Alors comment enrayer cette nouvelle flambée? 32 000 cas Covid recensés hier en 24 heures. Le ministre de la Santé dévoile les mesures à midi et demi. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous en connaissez déjà certaines. Première annonce à venir, Simon, l'élargissement rapide du rappel vaccinal au plus grand nombre.
Tous les adultes complètement vaccinés depuis au moins 5 mois pourront faire leur rappel. 5 mois et non 6, comme c'est le cas actuellement. À partir de là, vous aurez 2 mois pour recevoir cette dose de rappel. Sinon, votre passe sanitaire sera désactivé. Rappel vaccinal généralisé et quasi obligatoire donc, et il sera accessible à tous très rapidement, au plus tard début décembre, selon une source au ministère de la Santé. Mais l'exécutif veut aussi mettre la pression sur les 6 millions de non-vaccinés. Non seulement les tests vont rester payants, mais leur validité sera réduite de 72 à 24 heures seulement.
Et ça va aussi se durcir pour le port du masque.
Il va redevenir obligatoire, oui, en intérieur, même dans les lieux où vous présentez votre passe, dans les salles de spectacle, dans les musées, dans les restaurants, sauf évidemment quand vous êtes à table, voire en extérieur, par exemple sur les marchés de Noël. Un assouplissement, en revanche, est envisagé dans les écoles maternelles et primaires. Les classes ne devraient plus fermer au premier cas positif, mais tous les élèves seront testés. Quant à la vaccination des enfants, sujet clairement sur la table, on attend aujourd'hui l'avis de l'Agence européenne du médicament. Il n'y aura pas d'annonce lors de cette conférence de presse. Voilà donc la stratégie du gouvernement. Olivier Véran insistera fortement aussi sur le respect des gestes barrières. On est en avance de 2 semaines sur nos voisins qui ont dû reconfiner, confiait hier un ministre. Tout l'enjeu est de consolider cet avantage.
Simon Le Baron, pour ce qui nous attend donc tout à l'heure à la mi-journée, le rappel vaccinal pour tous les adultes, logique mais insuffisant pour Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes, qui plaide, lui, toujours pour la vaccination obligatoire.
On s'adresse aux Français qui ont été les bons élèves. On est en train d'oublier les 6 millions de Français qui, pour moi, constituent une bombe sanitaire à retardement et qui, depuis le début, s'obstinent sous prétexte de liberté à ne pas rentrer dans une logique de solidarité sanitaire. Moi, je regrette que notre proposition, depuis d'ailleurs le mois de juillet dernier, d'une vaccination obligatoire universelle ne soit pas mise en œuvre une nouvelle fois. Dont acte.
Le sénateur PS Patrick Kanner. Aux Antilles, les revendications dépassent désormais largement la seule contestation des mesures sanitaires. Nouvelle tension cette nuit en Martinique. Les barrages routiers se multiplient. Un supermarché a été incendié. Les pompiers visés par des tirs de projectiles. À quelques heures d'une rencontre prévue cet après-midi entre l'intersyndicale et le préfet. Des départs de feu nocturnes signalés aussi sur des ronds-points en Guadeloupe.
7h34, réunion d'urgence à Matignon ce matin.
Jean Castex convoque 8 de ses ministres au lendemain d'une tragédie inédite dans la Manche. Au moins 27 migrants sont morts hier dans le naufrage de leur embarcation à quelques kilomètres des côtes françaises. 2 rescapés hospitalisés doivent être entendus très prochainement. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, réagit Emmanuel Macron qui demande le renforcement immédiat des moyens de l'agence Frontex aux frontières extérieures de l'UE. Le président français s'est entretenu hier soir avec le premier ministre britannique. On sait que ce dossier est l'objet de vives tensions avec Londres depuis des mois. Et bien selon les services de Boris Johnson, les deux dirigeants ont, je cite, convenu de l'urgence d'intensifier conjointement les efforts pour empêcher les traversées mortelles. Omar m'a tué. C'est l'une des affaires criminelles les plus connues, les plus anciennes aussi. L'affaire Omar Radad, du nom de ce jardinier marocain, condamné en 91 pour le meurtre de sa riche patronne, puis partiellement gracié. 30 ans après, un nouveau chapitre judiciaire est-il sur le point de s'ouvrir? À la faveur de traces ADN, l'avocate d'Omar Radad réclame un procès en révision et sa requête sera examinée cet après-midi, l'Aurélie Carive.
30 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, dans le sous-sol de sa villa de Mouja, Omar Radad espère toujours être innocenté en bonne et due forme, lui qui a passé 7 ans de sa vie en prison. Sa première demande de révision avait été rejetée en 2002. Cette fois, l'avocate de l'ancien jardinier met en avant la découverte sur des scellés de 4 empreintes génétiques différentes, dont l'une apparaît à une trentaine de reprises sur les fameuses inscriptions tracées avec le sang de la victime. Un expert a estimé peu probable qu'il s'agisse là d'un ADN de contamination déposé par un enquêteur, par exemple. Des éléments donc suffisamment solides pour exiger qu'Omar Radad soit rejugé, estime maître Sylvie Noakovic.
La nouvelle loi 2014 permet de réviser un procès en cas de simple doute. À partir du moment où vous avez 4 ADN mélangés au sang de la victime, dont 2 significatifs, notamment sur les lettres ensanglantées, eh bien, il y a bien ce doute au sens de la loi qui permet la révision de son procès.
Après l'audience de cet après-midi qui se tiendra à huis clos, plusieurs scénarios sont possibles. La commission d'instruction peut soit rejeter la demande, soit la transmettre à la cour de révision qui, à son tour, se prononcera sur la tenue ou non d'un nouveau procès ou pourra ordonner des investigations supplémentaires.
Et cette décision ne sera pas rendue avant plusieurs semaines. Une nouvelle alerte ce matin sur l'exposition aux pesticides. Pour générations futures, les distances de sécurité imposées aux agriculteurs pour l'épandage de ces produits ne suffisent pas. L'ONG dévoile ce matin les premiers résultats d'une étude menée auprès de riverains, de champs, de vignes ou de vergers. 3/4 des échantillons prélevés sur leurs fenêtres contiennent des résidus de pesticides et bien au-delà des 5 à 20 mètres réglementaires, Célia Kiray.
Dans son village du Tarn, Florence Millet s'est prêtée à l'exercice. Elle a retrouvé des traces de fongicides sur ses fenêtres. Elle habite à moins d'un kilomètre de grands vergers de pommiers.
Moi, ces échantillons, ils m'ont alertée, notamment sur la présence de 2 molécules. C'est le fluopyrame, qui est un fongicide notamment utilisé pour la tavelure du pommier, qui est le principal, mâle des pommes. Et ensuite, par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu plus, c'est le méthylachlore, qui lui est censé être interdit depuis 2003 en France et qui en gros est un désherbant comme le glyphosate.
Impossible de savoir d'où viennent les traces de ce pesticide. En tout cas, les riverains qui habitent au-delà des limites d'épandage, à 5 ou 10 mètres des champs, ne sont pas protégés, estime François Veillerette de Génération Future.
Entre 0 à 20 mètres et puis 20 mètres à 100 mètres, le nombre de résidus est à peu près le même. Il faut aller au-delà de 100 mètres pour voir vraiment à la fois le nombre de résidus et les quantités de produits diminuer de manière significative. Ça plaide pour mettre en place des zones sans pulvérisation de pesticides de synthèse bien plus larges que les 5 à 10 mètres qui sont actuellement préconisés.
Seule une 60aine de prélèvements ont été effectués. Cette campagne participative continuera au printemps. L'ONG veut réaliser une carte de la présence de ces pesticides pour prouver que les riverains sont impactés, même s'ils n'habitent pas tout près des champs ou des vergers.
Aux États-Unis, il a fallu 11 heures de délibérer aux jurés pour se mettre d'accord dans l'affaire Arbery, du nom de ce jogueur afro-américain tué en février 2020. Les 3 suspects, des Américains blancs, sont tous reconnus coupables du meurtre. Verdict immédiatement salué par Joe Biden dans ce procès marqué tout du long par la question du racisme. Ces 3 hommes risquent maintenant la prison à perpétuité. C'est un pilier emblématique de la lutte pour la démocratie en Russie depuis la chute de l'URSS. L'ONG Mémorial, fondée notamment par Sakharov, prix Nobel de la paix, et dans le collimateur des autorités. La Cour suprême russe se penche aujourd'hui sur une demande de dissolution de sa branche internationale, et ce n'est qu'une étape dans un long bras de fer judiciaire, puisque le Centre pour les droits de l'homme, géré aussi par l'ONG et situé à Moscou, est également menacé de dissolution. Benjamin Hilly.
Depuis plus de 30 ans, Mémorial défend la protection des droits humains, défend les prisonniers politiques, et s'est distingué en documentant les exécutions staliniennes et l'histoire du goulag. Mémorial est aujourd'hui menacé en Russie, mais ses structures à l'international également. Comme Mémorial France, l'une des membres de son bureau, Catherine Gousseff, historienne spécialiste de l'Union soviétique.
Mémorial International est directement visé comme n'ayant pas respecté la procédure liée à son statut d'agent d'étranger, c'est-à-dire des organisations qui, bénéficiant de soutien de l'étranger, doivent labelliser toutes leurs actions sous l'étiquette d'agent d'étranger, ce qui évidemment dans le contexte russe, c'est quelque chose d'extrêmement stigmatisant Et donc, il y a deux aspects. Il y a effectivement ce risque d'un révisionnisme de la part du gouvernement et d'autre part, à travers la liquidation de Mémorial, un signal extrêmement fort à l'égard de la société russe et de son muselage. Maintenant, si vous voulez, on reste quand même prudent tant qu'il reste quand même un espoir que Mémorial ne soit pas liquidé.
En Russie, la Cour suprême en est encore au stade des audiences préliminaires. Selon Catherine Gousseff, il faudra attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu'une décision ne soit prise.
La réponse de Roselyne Bachelot après le mouvement MeToo Théâtre. La ministre de la Culture va conditionner les subventions aux spectacles vivants à des engagements contre les violences sexistes et sexuelles. Concrètement, les scènes nationales, centres dramatiques, festivals et compagnies soutenues par le ministère vont devoir créer un dispositif de signalement efficace, former aussi leur encadrement au recueil de la parole. On y revient en détail dans le journal de 8 heures.
Et après un gros succès en France, Alexis, le film de Valérie Le Mercier, inspiré de la vie de Céline Dion, sort cette semaine au Québec.
Et forcément, là-bas, Aline, c'est son titre, sera scruté de près. Mais d'ores et déjà, le vrai faux biopic ne plaît pas beaucoup à la famille de la chanteuse. Suffit d'écouter ce qu'en a dit sa sœur Claudette Dion hier à la télévision québécoise.
Ça n'a pas été, malheureusement, pour moi, un grand succès. On passe pour une gang de bougons. Ça fait que je reconnais pas la langue, je reconnais pas ma famille, je reconnais pas nos racines. Elle, elle s'est payé un trip, là. Un méchant trip. Sur le dos de la vie de Céline, mais tu sais, c'est vrai que c'est une belle histoire d'amour, mais moi, ça m'a pas rejoint. Ça m'a pas touché, au contraire. Quand j'ai vu Céline, elle mange n'importe comment, puis elle dégouline, puis elle vole du lunch, puis même elle vole du sucre dans les hôtels. Je capote!
C'est pas
je
ça.
Capote! C'est pas ça!
C'est pas ça!
Ça a jamais été ça!
La sœur de Céline Dion, Claudette, invitée d'une émission de la chaîne Nouveau au Québec. On ne sait toujours pas, en revanche, ce qu'en a pensé Céline elle-même. C'est quand même la plus apte à juger.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à